coming.
My son, it is your time.
Confrontation ain't nothing new to me.
The Black Panther lives.
You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me.
The world's gonna start over. This is my time.
Il est fort, il est bon, il est noir. Black Panther, la panthère noire.
Black Panther, rated PG-13. Get tickets now.
Le premier super-héros noir est déjà dans nos salles à Toronto. Le film, adapté d'une bande dessinée Marvel, a été porté à l'écran par Ryan Coogler, avec un casting quasiment exclusivement noir américain. Black Panther, la panthère noire, un film à voir absolument. L'animateur polémiste du Québec, André Arthur, congédié de la radio BLVD à Québec, Monsieur Arthur avait tenu des propos homophobes, racistes, le mois dernier, qualifiant la rue Saint-Jean à Québec de boulevard Sida, au cœur du quartier gay. Que se passe-t-il avec ces radios poubelles, ces médias poubelles, dans le monde de la francophonie? Soyez des nôtres pour une émission choc. Dimanche, le 25 janvier, avec des professeurs, des auteurs, des écrivains, mais aussi des gens de la radio, des gens des médias, nous allons dresser la liste, dévoiler la liste de ces médias poubelles dans le monde francophone. Dimanche, le 25 février prochain, de 11h à 13h, avec nos invités. Vous avez des témoignages, des réactions ? Popourri@cut.fm. Les médias poubelles, les radios poubelles, dimanche prochain.
Ça fait 20 ans que je n'emploie cette expression-là. Rappelez-vous, quand la crise du sida est arrivée à Québec et que dans le quartier gay, les gens mouraient sans pouvoir aller à l'hôpital parce que les hôpitaux de Québec refusaient de les soigner. Vous rappelez-vous de ce temps-là? Et vous rappelez-vous qu'à ce moment-là, on était les seuls à parler de ça. Il y avait la communauté homosexuelle et il y avait les hémophiles qui avaient été infectés par la Croix-Rouge. Et on en parlait. Et à un moment donné, c'était devenu une façon de dédramatiser la chose. Mais à Québec, ça marche.
Malheureusement, le cas d'André Arthur n'est pas un cas isolé au Québec. C'est dommage. On ne parle jamais de l'impact des médias dans l'imaginaire collectif. Le 25 février prochain, Popourri Show dévoilera une liste des émissions et médias qui prônent le racisme, le sexisme et l'homophobie dans le monde francophone. Soyez les nôtres dimanche prochain sur CUT 89,5 FM dans le cadre des célébrations du mois de l'histoire des Noirs.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions que vous demandez, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Bien le bonjour, madame, monsieur, que vous soyez à travers la planète. On vous souhaite un bonjour très, très, très chaleureux en direct de Toronto. C'est votre magazine de la francophonie à la radio de l'Université de Toronto, Hot House Studio. Bonjour, l'ingénieur du son, DJ Devera. Au microphone, Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h, live, en direct, sur www.cut.fm. En ce dimanche 18 février 2018, bienvenue mesdames, messieurs, troisième émission dans le cadre des célébrations du mois des diasporas noires. Notre histoire s'écrit chaque jour, c'est le thème de cette année. Et mettez vos connaissances de l'histoire des Noirs à l'épreuve. Qui est, selon vous, Marie-Joseph-Angélique? Je répète, qui est, selon vous, Marie-Joseph-Angélique? Participez, répondez, courez la chance de gagner un prix très intéressant, peut-être même un voyage avec nous en Afrique, dans les Antilles. Et des cadeaux de nos partenaires, envoyez-nous votre réponse immédiatement, popourri@cut.fm. Ah, attention, les règlements, il faut répondre à chaque dimanche et nous donner les bonnes réponses à chaque dimanche. Et si vous êtes parmi ceux et celles qui nous donnent, partagent les bonnes réponses, eh ben, nous ferons le tirage au sort dimanche prochain peut-être, hein? Et oui, cette émission est réalisée aujourd'hui en partenariat avec le journal Express de Toronto, le MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, à qui nous disons bien le bonjour. People of Motherland, un monde de culture, d'ailleurs, où est passée sa vice-présidente Olga Lambert. Si vous avez ses coordonnées, qu'elle nous appelle immédiatement au 416-946-7000. Olga Lambert et recherchée dans la ville de Toronto. Si elle est là, peut-être elle est dans les Antilles quelque part, mais elle devait être des nôtres aujourd'hui. Olga Lambert, aujourd'hui le thème de cette émission, plein feu, projecteur sur les femmes. Hommage aux femmes noires, héroïnes de l'ombre. Quelles sont les difficultés pour la femme noire, immigrante et francophone à se faire une place dans la société canadienne ou ontarienne? Quel est le prix de l'engagement communautaire pour une femme noire? Partagez vos propos. On vient de m'envoyer une missive. On me dit, partagez-vous, Monsieur Cadet, les propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau. J'adore ça quand les gens réagissent. On est en interaction là avec les auditeurs. Partagez-vous les propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Selon lui, il y a du racisme envers les Canadiens noirs. Eh oui, j'attends vos réactions. J'ai ma petite idée là-dessus. Parmi nos invités aujourd'hui, Diana Ba-Démé, secrétaire trésorière du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Bonjour et bienvenue. Mouy Girawa-Demitilde, consultante en création et gestion des petites et moyennes entreprises. Elle est aussi membre de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique centrale et des Grands Lacs. Elle est chercheure en phytonature, nutrithérapie, qu'est-ce que c'est? Et puis Olga Lambert, co-directrice de People of Motherland, un monde de culture. Et nous allons aussi peut-être lire, partager avec vous les histoires abracadabrantes d'une blogueuse. Elle vit aujourd'hui à Toronto. Elle nous raconte son expérience en tant que noire, les contrastes entre la France, le Québec et l'Ontario. Cinéma, cinéma, il est fort, bon et noir, Black Panther est sur tous nos écrans, madame, monsieur, La Panthère Noire, c'est un film par les noirs, pour tout le monde. Enfin, c'est incroyable, hein, tête d'affiche, plus de 25 millions de dollars au box-office. Nous venons de recevoir une alerte de Radio France Internationale. Nous venons d'apprendre la mort du réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo, qui est décédé ce dimanche à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Pas vieux du tout, hein. Donc ça a été annoncé par l'Union nationale des cinéastes du Burkina dans un communiqué qui a été transmis à l'AFP et à RFI. Je vous rappelle qu'il est auteur d'une quarantaine de films. Idrissa Ouédraogo a été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le grand prix du jury au Festival de Cannes pour le film Tilaï en 1990. Nous venons de perdre un grand cinéaste africain. On fera un coup de cœur projecteur lors du mois de la francophonie au mois de mars. Cela vous intéresse, vous nous envoyez un message immédiatement. Et puis lancement d'album Radio Sewell de Mélissa Lavaux, cette chanteuse guitariste de la région d'Ottawa qui maintenant habite à Paris, qui ne cache pas ses tendances homosexuelles, eh oui. Alors, elle explore l'histoire de son pays d'origine, Haïti, occupé par les États-Unis de 1915 à 1934, une collaboration de TV5 Monde. Le plongeon dans l'univers africain, un monde imaginaire avec ses traditions et ses proverbes. Le comédien franco-camerounais Saïdou Abacha, qui a fait du proverbe africain matière à rire et à penser, il vit en France aujourd'hui et très 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 populaire. Mais qui est cette pile électrique africaine à rire, qui fait rire toute la France et le continent africain? Nul n'est prophète chez soi, dit l'adage. Pour ne pas le démentir, les auditeurs découvrent l'Ivoirienne Claudia Tagbo, rieuse, autoritaire, mais avant tout charmeuse. Elle incarne avec ses formes généreuses la femme libérée et indépendante du 21e siècle. Et oui, vous avez une question, une remarque, vous voulez être partenaire à nos émissions ou encore participer au mois de la francophonie le mois prochain, eh bien vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm ou hashtag popourrishow. Et puis nous allons vous envoyer des proverbes tout au long de cette émission. L'œuf ne danse pas avec la pierre.
ou encore « Quand un arbre tombe, on l'entend, quand la forêt pousse, pas un bruit ». Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et oui, madame, monsieur, nous remercions encore une fois tous nos partenaires et soyez des nôtres pour cette émission spéciale la semaine prochaine, ces médias poubelles, les radios poubelles. Qui font parler tous les gens, les auditeurs de la région du Québec, surtout et à Montréal. Et nous remercions tous les auditeurs, mais aussi les partenaires et les invités. Et le Journal Express de Toronto qui nous aide à propager la nouvelle de cette émission spéciale la semaine prochaine. Popourri Show, c'est votre magazine de la francophonie, c'est toute la diversité du monde dans votre fréquence, sur votre fréquence. Et oui, le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est en Inde en ce moment, affirme qu'il est temps que les Canadiens reconnaissent que le racisme et les préjugés inconscients contre les personnes noires existent dans leur pays, le beau Canada. Justin Trudeau soutient que le moment est venu d'agir pour assurer l'égalité des chances et le même traitement pour les Canadiens noirs, notamment en faisant plus pour recruter et élire des membres noirs au Parlement du Canada. M. Trudeau a tenu ses propos dans un bref discours lors d'une réception soulignant le mois de l'histoire des Noirs, lundi soir à Gatineau. Ça bouge là-bas. Eh oui, équité d'emploi, on en parle depuis des années. 30 ans que j'entends le même discours, M. Trudeau. Et allez réveiller tous ces gens dans le secteur privé, dans nos conseils scolaires, et dans nos instances communautaires pour qu'ils se mettent au même diapason que vous. Eh oui, il y a deux semaines, M. Trudeau avait annoncé que le Canada reconnaissait officiellement la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui met l'accent sur la nécessité de recherche et de cueillette de données pour mieux comprendre les défis auxquels font face les communautés noires à travers le monde. On en a fait des cueillettes, il y en a des données. Depuis des années, allez voir dans vos bureaux au gouvernement fédéral, dans le cadre des ministères des ressources humaines. Il y a une loi d'ailleurs qui régit certaines entreprises, certaines compagnies qui ont des contrats du gouvernement fédéral qui s'appelle l'équité en matière d'emploi, Monsieur Trudeau. Monsieur Trudeau, toujours notre premier ministre canadien, qui a indiqué que des groupes de défense des droits des Canadiens noirs s'étaient plaints de la surreprésentation des personnes noires dans les prisons et d'un soutien insuffisant pour celles aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Et dans quel état d'esprit vivent les Afro-Canadiens? Eh oui, des consultations en 2016, pas très longtemps, hein, sur l'état des droits des Afro-Canadiens avaient été menées par un groupe de travail de l'ONU lors d'une mission à Ottawa, Toronto, Halifax et Montréal. Eh bien, leurs conclusions ont été présentées au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en 2017, pas très longtemps. Et selon ce même comité, trop de Canadiens de descendance africaine vivent dans la pauvreté, ont une mauvaise santé, ont un faible niveau de scolarité et sont sous-représentés dans le système de justice. Est-ce que cela vous choque, madame, monsieur? C'est bien le Canada qu'on parle. Et cette semaine, la parole était donnée aux femmes noires dans le cadre d'une réunion spéciale visant à examiner l'expérience des femmes noires détenues. Les membres du comité sénatorial permanent des droits de la personne ont souligné que les noirs constituent presque 9% de tous les détenus des pénitenciers fédéraux, alors qu'ils ne représentent que 3% de la population totale. Selon la présidente du comité du Sénat sur les droits de la personne, la sénatrice Wanda Thomas-Bernard, le Canada doit donc s'attaquer au racisme systémique envers les Noirs dans les prisons et les aider dans un deuxième temps à mieux réintégrer la société une fois libérés. L'une des choses qui deviennent vraiment claires, c'est que des changements sont nécessaires à tous les niveaux. Eh oui! Le Canada célèbre chaque année, madame, monsieur, le mois de l'histoire des Noirs et je lis, je relis les statistiques, les données, même rengaine. Je suis ému très déçu de voir qu'il y a très, très, très peu de changements dans plusieurs secteurs de notre société partout à travers le Canada. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, chaque année, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs qui commémore la lutte des Noirs du pays pour se libérer de l'esclavage. D'ailleurs, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à toutes nos émissions. Nous avons reçu des témoignages vibrants, des commentaires, des confidences. Et je vous remercie de cette confiance. Plus de 200 personnes, en effet, ont réagi depuis la première émission à cette antenne sur le mois de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup, beaucoup à faire dans la francophonie canadienne, nous dit-on, pour démystifier les mythes, les clichés, qui encore, hélas, sont trop présents. Selon plusieurs médias, témoignages, même le journal Le Devoir, la société québécoise ne traite toujours pas de façon égalitaire les Noirs et les Blancs. En février 1969, un événement singulier secouait le monde universitaire de Montréal. 6 étudiants originaires des Caraïbes entamaient une protestation contre un professeur de biologie de l'université à l'époque, Sir George Williams, aujourd'hui Concordia. Perry Patterson, disait-il, les faisait systématiquement échouer à cause de la couleur de leur peau. Cette protestation, qui avait débuté sous forme de lettres, avait rapidement pris des proportions énormes. Des étudiants noirs, comme blancs, prennent d'assaut le 9e étage, le laboratoire informatique de Sir George Williams. Des ordinateurs sont lancés par des fenêtres. La police procède à des interventions musclées. Un feu se déclare à l'étage occupé. L'histoire veut que quelqu'un dans la foule ait alors crié « Laissez les nègres brûler. Let the niggers burn. » Plusieurs manifestants, surtout les Noirs, selon l'historienne Dorothy Williams, qui donnait récemment une conférence sur la question, ont ensuite été condamnés à la prison. Aujourd'hui encore, cet événement est considéré comme un tournant dans l'histoire des Noirs de Montréal. L'affaire Sir George Williams a mené à la création des postes d'ombudsman, c'est-à-dire médiateur, dans les universités. Pour l'écrivaine Dorothy Williams, qui est auteure de plusieurs livres sur la communauté noire de Montréal, les questions raciales ne sont pas abordées directement au Québec ou au Canada en général. On n'enseigne même pas l'esclavage à l'école dans les cours d'histoire, dit-elle. Or, l'esclavage avait déjà cours ici en Nouvelle-France, colonie française d'Amérique du Nord, de 1534 à 1763. Pour Dorothy Williams, les Québécois s'obstinent à percevoir les Noirs comme des étrangers au Québec, alors qu'ils sont ici depuis les tout débuts de la colonie, et qu'un Noir nommé Mathieu d'Acosta a mis le pied en Nouvelle-France en même temps que Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec. Parallèlement, si les Noirs québécois n'ont pas vécu la ségrégation proprement dite, comme celle que l'on retrouvait aux États-Unis, ils ont longtemps été tenus à l'écart de certains quartiers par le biais de gentlemen agreements. Gentlemen agreements, selon lesquels les propriétaires s'entendaient pour ne pas vendre de terres ou de maisons à des Noirs, ajoute Madame Williams. Statistiquement parlant, poursuit Madame Williams, un Noir bachelier gagne moins d'argent qu'un blanc qui n'a pas son diplôme d'études secondaires. Ce sont des rapports gouvernementaux qui le prouvent, assure-t-elle. Dans l'ensemble, on calcule dans la population noire canadienne gagne 30% de moins que la population blanche. Avec la montée de l'extrême droite aux États-Unis, au Canada et surtout au Québec, nous devons tous et toutes être très vigilants. Il n'y a pas de place pour des actes, des propos racistes, sexistes, homophobes dans notre société. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale avec des professeurs, des gens des médias, ayant pour thème les médias poubelles dans le monde de la francophonie. Et maintenant, nous allons passer à notre première invitée. Qui est-elle? C'est une femme fort intéressante que j'ai découvert récemment grâce à Radio France Internationale, mais aussi TV5 Monde. Une haïtienne, elle n'est pas haïtienne, elle est née à Montréal et puis elle a grandi à Ottawa. Aujourd'hui, elle vit en France. Elle a eu des démêlés avec ses parents quand elle a annoncé qu'elle était lesbienne. Nous allons mettre le cap, madame, monsieur. Pour quelques minutes, nous allons faire notre émetteur et partager notre fréquence avec une autre radio. Eh oui, c'est une radio, c'est celle, la radio de Mélissa Laveau. Au commencement, elle est née dans son esprit, dans son imaginaire, dans son envie de redécouvrir ses racines, sa terre d'origine, Haïti, pour dépasser le complexe de déraciner. Mélissa est donc partie sur les traces des siennes, celles de ses parents, de sa grand-mère, de la grande chanteuse Martha Jean-Claude, qui aura nourri en elle toute son enfance, cet imaginaire créole, les chants folkloriques et la résistance du peuple haïtien. Alors Mélissa, 20 ans après, est retournée en Haïti pour plonger, s'enraciner dans ce patrimoine qu'elle espérait et surtout reconstitué à partir de chansons, de poésies, de bribes de textes, poèmes égarés et de rencontres, une époque précise du peuple haïtien, celle de la seconde occupation dans les États-Unis de 1915 à 1934. C'est mon coup de cœur de cette semaine, Mélissa, qui a été d'ailleurs, je pense, animatrice à un moment donné à Radio-Canada, si je ne me trompe. Et bien maintenant, c'est Radio Sewell. Et je vous rappelle, si vous êtes dans la région de Paris, vous êtes en France, elle va donner un concert le 8 mars dans le cadre de la journée de la femme aux Étoiles à Paris. Place reportage.
De... Dans le froid de Paris, j'écoute et je sens tout ce qui me raccroche à Haïti. C'est étrange d'être aussi attachée à une île alors que je la connais si peu. Et ça me donne le droit de la rêver. En Haïti, les divinités d'Afrique viennent rendre visite à ceux qui les appellent. Pour traverser l'Atlantique, on dit qu'ils passent par les racines souterraines des grands arbres qui poussent des deux côtés de l'océan. Les racines, elles poussent en moi et font la sève de mes chansons. Toi,
bonsoir Estelle.
Bonsoir Mohamed.
Ravie de vous retrouver. Mélissa Laveau, jeune artiste canado-haïtienne. Aujourd'hui, elle vit en France. C'est son troisième album. Hein.
Oui, son troisième album. Et je suis sous le charme. Et pas seulement parce qu'elle interprète, entre autres, du gospel vaudouisant. Cet album marque un retour aux sources. En 2016, elle est repartie en Haïti, qu'elle avait quitté avec sa famille pour émigrer au Canada. Vous l'avez dit aujourd'hui, elle vit en France. Et elle a plongé dans l'histoire de l'île, dans le patrimoine musical aussi. Et voilà, ça a donné ce très bel album que je ne tiens absolument pas droit, Radio Sewell, 12 titres, des reprises. Elle a électrifié vraiment des titres très connus là-bas en Haïti. Et c'est un album qui est chargé de sens pour elle, parce que ça parle de son île, ça parle aussi d'elle, évidemment. Et nous l'avons rencontrée. Avec Radio Sewell, Mélissa Laveau a retrouvé la fréquence de son île et celle de sa langue maternelle, le créole.
Moi, j'ai grandi avec des parents créolophones, donc on m'a toujours parlé en créole. On n'a juste pas voulu que je le parle à mon tour. Donc pour moi, c'est hyper important de me remettre dans le créole, parce que si je ne m'y mets pas maintenant, je vais le perdre à jamais, je pense.
Voilà comment elle est devenue une banda Sewell, une troubadour, comme on les appelle en Haïti, et qu'elle a créé cette radio qui enchaîne des chansons du patrimoine haïtien, celles de Martha Jean-Claude, Franz Caseus et bien d'autres.
Où la radio, elle transmet des informations et parfois le signal, il est brouillé en fait. Et moi, je trouve que le signal, pour moi, a été brouillé parce que mes parents n'ont pas parlé de cette période. Et du coup, j'ai essayé de remplir avec mon imaginaire ce qui a été perdu.
Elle est
Cette époque, c'est celle de l'occupation américaine entre 1915 et 1934. Tous les titres qu'elle a choisis parlent à mots couverts de cette période violente, des titres parfois ensorcelants.
Que le voodoo revienne en force à cette époque-là, moi ça ne me surprend pas. Et j'ai fait spécifiquement le choix d'ajouter des chansons qui sont soit, comme appelé le gospel de vaudouisant, des cantiques, parce que je me dis que ce sont des chansons qui ont dû se chanter en messe, ou ce sont des chansons qui représentent un peu l'état d'âme en fait des gens à cette époque.
Ces fantômes du passé reprennent vie grâce à la voix de Melissa Lavo, grâce aussi à sa guitare électrique, un répertoire qui nous raconte des histoires tristes sur un ton joyeux. Radio Sewell, c'est vraiment mon coup de cœur musical. Je vous le conseille fortement. Et sachez que Melissa Lavo sera en concert aux Étoiles à Paris le 8 mars, journée de la femme. C'est dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Et si vous nous regardez depuis Haïti, eh bien, elle est bien déterminée à vous présenter son album. Et elle l'avoue elle-même, elle a un petit peu le trac, parce que c'est quand même le patrimoine haïtien.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres,
chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Julie Lemieux, je suis journaliste au quotidien Le Soleil de Québec. Pendant plusieurs années, j'ai été victime de la radio poubelle.
C'est Julie Lemieux ce matin?
Oui, elle est folle.
Check là, parce que d'après moi, une fois que t'es partie, elle se roule la bille en regardant une photo du maire.
C'était dénigrant, là. C'était vraiment dénigrant pour une femme d'entendre parler de soi comme ça à la radio, là.
Qui sont les auteurs de ces radios, de ces médias poubelles? Eh oui, après le congédiement de l'animateur polémiste du Québec, André Arthur, nous avons découvert d'autres animateurs de certains médias francophones. Dévoilement de cette liste inédite, dimanche prochain, le 25 février. Loin d'être à sa première controverse, l'animateur avait également été remercié par Choix Radio X à Québec en avril 2016. Et il y en a un autre, Jean Lapierre, qui en avait passé des propos très déplaçants mais aussi racistes envers les Haïtiens. D'ailleurs, le consulat général d'Haïti à Montréal s'était dit choqué par les affirmations de ses animateurs voulant que ce pays bizarre et sans avenir, c'est-à-dire Haïti, où tout le monde va essayer de te voler, devait être mis sous tutelle. Ah oui, les dommages de ces radios poubelles dans notre imaginaire collectif. Le 25 février prochain, soyez des nôtres pour le dévoilement d'une liste des émissions et médias qui prônent le racisme, le sexisme et l'homophobie dans le monde francophone. Témoignages, réactions, potpourri, @cut.fm. Le mois de l'histoire des Noirs, ça se célèbre chaque année, chaque dimanche, sur CUT 89,5 FM, Toronto. Mélissa Lavaux, eh oui, cette Haïtienne qui est à Paris maintenant. Voici un extrait. Que
que j'adore. Mélissa Lavo avec son dernier album Radio Sewell, madame, monsieur. Et si vous êtes dans la région de France, de Paris, n'hésitez pas à aller le 8 mars célébrer les femmes, mais aussi célébrer cet artiste qui donnera un concert unique aux étoiles à Paris. Et oui, chanson nourrie d'influences plurielles allant de Joni Mitchell à Billie Holiday, sans oublier Nina Simone ou le groupe Arcadie Fire, Mélissa Lavo. C'est l'artiste d'une musique folk, langoureuse, matinée de pop, d'influence caribéenne. Avec Radio Sewell, nouvel opus, elle parcourt l'histoire de son pays d'origine, Haïti, occupé par les États-Unis de 1915 à 1934. Et pour résister, le peuple créole, je vous rappelle, avait développé tout un arsenal de chansons à double sens, entonnées par son modèle Martha Jean-Claude, et légende de la musique haïtienne. Elles ont marqué l'artiste par leur puissance humoristique, mélodique, séditieuse. Avec ses mélodies pour certaines centenaires, la chanteuse guitariste d'Ottawa explore l'âme de l'île antillaise, de ses passions, de ses parents, et révèle une intense facette de son talent de diseuse de belles aventures. Je vous rappelle qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans sa communauté, y compris dans sa famille, quand elle a annoncé qu'elle était lesbienne. Et aujourd'hui, elle vit en France. Dans un instant, nous allons passer à d'autres femmes héroïnes dans la région de Toronto. Et oui, il y en a plusieurs. Et hommage aux femmes noires héroïnes de l'ombre. Quelles sont les difficultés pour la femme noire immigrante et francophone à se faire une place dans la société canadienne ou ontarienne? Quel est le prix de l'engagement communautaire pour une femme noire? Et nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités aujourd'hui, entre autres Olga Lambeck sera des nôtres un peu plus tard, je l'espère, Mui Diawa de Mithilde, et aussi, bien sûr, un membre, je ne vous annonce pas tout de suite son nom, qui fait partie du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, d'ailleurs le MOFIF qui parraine l'émission d'aujourd'hui. Et oui, le MOFIF a pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones et favoriser leur intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société. D'ailleurs, il développe aussi des outils pédagogiques pour aider à mieux cadrer les femmes immigrantes francophones, mais aussi il donne des ateliers dans les écoles et à la communauté francophone en général. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dienaba Démé, qui est secrétaire trésorière du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Dienaba Démé, bonjour, bon dimanche et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui.
Oui, bonjour, merci de m'avoir.
Oui, alors je vois qu'il se passe beaucoup d'activités de ces temps-ci, MOFIF. Parlez-nous un petit peu peut-être des activités auxquelles vous avez participé ou organisé dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs cette année.
Oui, alors en fait, on va participer à certaines activités organisées par le Centre francophone, et le mois de mars sera très actif aussi pour nous. Mm-hmm. On va être en partenariat avec le Centre de santé de Hamilton le 3 mars. Donc oui, c'est une période très occupée pour nous.
Oui. Alors parlez-nous un petit peu justement du vécu de ces jeunes filles, de ces femmes immigrantes noires qui arrivent ici en Ontario. Peut-être souvent le français n'est pas leur première langue, n'est-ce pas? Se déraciner, il y en a qui viennent comme immigrants, d'autres comme réfugiés, d'autres qui arrivent dans des conditions très très pénibles même des fois. Parlez-nous un petit peu du vécu de certains profils, peut-être sans dévoiler de nom bien sûr, mais de certains profils de votre regroupement.
Ok, alors les profils sont variés. Nous avons beaucoup de femmes qui sont des réfugiées, des immigrantes reçues, certaines femmes qui font issues du parrainage à travers leurs conjoints. Mm-hmm. Donc, différents types de statuts d'immigration pour ces femmes-là. Et bien sûr, beaucoup de difficultés dont elles font face au sein du Canada en général et en Ontario.
Est-ce que il y a vous-même dans votre entourage des femmes noires qui ont marqué un peu peut-être votre vécu, votre parcours?
Oui, absolument. Moi-même étant une femme immigrante francophone noire, donc je peux m'associer à cette expérience et aussi l'expérience de mon entourage. Et donc ces femmes font face à beaucoup de défis. Elles n'ont pas souvent toujours accès à un travail décent, à l'éducation, à la propriété, au système de garde et aux soins de santé primaires. Et leur expérience reflète aussi une difficulté au niveau de la ségrégation des emplois et aux inégalités salariales. Mais parmi ces difficultés, je veux surtout insister sur les obstacles à la réunification familiale. Mmh. Quand je dis obstacle à la réunification familiale, je parle bien sûr des difficultés qu'elles ont parfois à faire venir leur progéniture ou leur conjoint au Canada, du fait de la lourdeur administrative du regroupement familial, ainsi que les longs délais de traitement, etc. Donc ça, ces obstacles-là sont une source de déstructuration de la famille chez certaines de ces femmes. Et d'ailleurs, à ce sujet, le MOFIF a fait une recherche en mars 2008, donc il y a près de 10 ans de cela, une recherche sur les femmes réfugiées, les difficultés qu'elles rencontrent en termes de regroupement familial. Cette recherche est en voie d'être réactualisée cette année-ci avec l'appui d'une femme venant du Burundi. Et aussi, comme vous l'avez mentionné, une autre barrière très importante, c'est la barrière linguistique. Beaucoup de ces femmes immigrantes francophones ne maîtrisent malheureusement pas l'anglais. Donc, elles sont francophones dans une province où plus de la majorité de la population s'exprime en anglais. Donc, les services dont elles ont généralement besoin, qui peuvent être des services juridiques ou des services d'immigration, sont hélas en majorité anglophones. Et ceci peut contribuer à leur isolement et peut accentuer leurs difficultés d'accès au marché du travail. Mais bien sûr, je veux souligner que les services en français existent bien à travers le MOFIP, le Centre francophone et d'autres organisations au sein de Toronto, mais aussi du Greater Toronto Area. Mais il faut plus de visibilité pour ces services. Peut-être travailler au sein de la visibilité au niveau de l'aéroport pour que ces femmes soient au courant que ces services sont disponibles dès leur arrivée en Ontario.
Dienaba Démé, qui est secrétaire trésorière du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Cet organisme est basé ici dans la région de Toronto. Si les gens qui sont à l'étranger ou bien sur le web veulent vous connaître, en apprendre davantage, c'est www.mofif.ca. Et là, vous allez découvrir un très, très beau site qui vous donne des indications et des informations sur les ressources et sur votre organisme. J'aimerais vous poser une question parce qu'on met l'emphase un petit peu sur le mois de l'histoire des Noirs, mais surtout la facette francophone, parce que depuis des années, on parle surtout dans le monde anglophone, c'est devenu comme une tradition maintenant. Il y a des grandes activités, festivités même, par des grands artistes, des gens de la radio, des médias, mais dans la communauté francophone, on est un peu très modeste, on a été très timide. Pourquoi est-ce que ces femmes francophones, surtout noires, décident de venir en Ontario, qui est une province surtout anglophone, au lieu du Québec? Est-ce qu'il y a une raison?
Ok, donc en fait, je pense que je ne peux pas parler pour toutes les femmes. Les raisons sont toutes différentes les unes des autres. Je peux parler par exemple de mon expérience. J'ai vécu au Québec et puis ensuite j'ai déménagé en Ontario. Je pense que le choix de ces femmes de venir plutôt en Ontario, c'est parce que le français, c'est un grand atout ici. Le Canada est officiellement un pays bilingue. Donc, pour ces femmes, venir en Ontario signifie d'accord plus de difficultés, mais une fois qu'elles vont se fondre dans la société et maîtriser la langue, je pense qu'elles ont plus de possibilités au niveau professionnel. Et aussi, l'Ontario offre beaucoup de services aux immigrants, ce qui est un atout non négligeable.
Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais beaucoup, on voit, moi j'en connais certains qui nous appellent, ont beaucoup, beaucoup de difficultés dans le dédale des services, que ce soit de l'immigration, de la justice. Vous avez parlé tout à l'heure à l'aéroport Pearson. Chaque fois que je voyage, je vois des grandes affiches, panneaux publicitaires en anglais et en français. Mais souvent, quand on arrive au comptoir, au guichet, il y a de la difficulté à trouver des gens qui soient parfaitement bilingues, qui parlent le français, surtout pour aiguiller un petit peu les gens dans certains services. Alors, je sais que le Centre francophone, avec un centre dans la région de Peel, je pense, avait un contrat pour rectifier cette situation. Ça avait fait même la manchette dans certains médias francophones, mais je ne sais pas où on en est avec cette question. Mais en effet, c'est très important quand on fait la promotion du Canada et de l'Ontario, qu'on dise la vérité aux gens, parce que sinon il y aurait une déception et les gens peuvent avoir des obstacles et aussi être déçus, hein, et ça peut causer des traumatismes, surtout quand on arrive dans des situations difficiles, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, et je pense que le MOFIF est très conscient de cette réalité que vous venez de souligner. On a participé d'ailleurs le 14 et le 15 février, notre présidente Faïza et moi-même et une bénévole, nous avons assisté à la réunion des intervenants francophones du secteur de la justice, justement pour aborder les difficultés que les personnes francophones ont à avoir accès aux services en français. Donc c'était très intéressant comme panel de discussion. Je pense que beaucoup de travail va être effectué sur dans le terrain pour en effet améliorer ces conditions d'accès aux services en français. Ça va prendre bien sûr beaucoup de temps, mais je pense que c'est en voie de progrès.
Oui. J'ai reçu beaucoup de réactions de la part des auditeurs depuis qu'on a démarré notre émission dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, et entre autres, il y a une blogueuse qui est d'origine africaine, qui vit à Toronto maintenant, mais elle a vécu des moments vraiment pas très cocasses, pas très jolis en France et aussi à Montréal. Et c'est trop long à lire, mais elle trouve qu'il y a beaucoup de cas où c'est politiquement correct, les gens agissent d'une façon sournoise, qu'elle a découvert un racisme plus décomplexé en France, et au Québec, c'était du racisme tout court, où les gens l'apostrophaient presque dans le milieu du travail et aussi sur les trottoirs. En tout cas, c'est assez touchant. Et elle a dit ma couleur de peau ne m'a pas empêché d'accéder à un emploi qualifié ou un logement décent. Par exemple, la majorité des gens que j'ai rencontrés lors de mes recherches d'emploi, de logement ou encore dans la plupart des administrations n'en avaient que faire. Ils ont montré ouvertement mon cas. Chaque fois, c'était en référence de ma couleur de peau. En tout cas, à Toronto, aujourd'hui, avec sa fille, elle a découvert le racisme de manière assez violente. J'ai aussi entendu quelques réflexions nauséabondes de certains collègues ontariens sur les immigrants. L'un d'entre eux, un petit génie, dit-elle, avait d'ailleurs sous-entendu que les Africains étaient cannibales. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est pas croyable. En 2018, on vit en Toronto, au Canada, qu'il se passe encore des choses pareilles. Quelle est votre réaction?
Alors, en fait, moi, je dirais que Toronto, c'est une ville très, très multiculturelle où cohabitent beaucoup de nationalités diverses. Je pense que le racisme, il y en a partout. On peut en faire l'expérience partout dans le monde. Donc, toute expérience est différente. Je pense qu'il faut juste savoir faire la part des choses et aussi savoir répondre du tac au tac lorsqu'on fait face au racisme, parce que le racisme parfois c'est signe d'ignorance, pas toujours signe de méchanceté. Je pense qu'il faut juste savoir s'y prendre avec des pincettes et avoir une réaction pas très démesurée.
Mais c'est pas tout le monde malheureusement qui peut répondre du tac au tac, comme vous l'avez dit.
Oui, absolument. Mais d'où l'importance pour certaines organisations qui portent la voix de la société de sensibiliser la population à ce niveau. Beaucoup de personnes pensent que puisque Toronto, c'est multiculturel, c'est bientôt venu pour rejoindre New York en termes de diversité, de langue, de nationalité pour les immigrants, qu'il n'y a pas de racisme, ce qui est totalement faux. Il y a du racisme partout, malheureusement. Donc, il faut juste sensibiliser les gens et surtout les enfants, parce que ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est la clé d'une réussite, c'est la clé d'une société où il y a moins d'ignorance et par conséquent moins de racisme.
Mmh. Vous savez ce proverbe africain, même la poule noire pond des œufs blancs. Alors, et nous avons justement lancé le concours aujourd'hui. Il y a très très peu de gens qui connaissent Marie-Joseph Angélique. Madame, monsieur, si vous avez la réponse, téléphonez-nous ou encore envoyez un message à popourri@cut.fm. C'est une façon pour nous de vous faire découvrir tous ces héros noirs, héroïnes noires de l'histoire du Canada. Oui, 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 il y en a, mais on n'en fait pas assez. Est-ce que ça fait très longtemps, vous êtes en Ontario, comment voyez-vous un peu le système de l'éducation, comment voyez-vous le reflet de l'histoire des Noirs du Canada et du monde dans le cursus scolaire de l'éducation? Est-ce que vous avez des opinions, une idée, vous êtes satisfait?
Oui, alors en fait, ça fait 2 ans que je suis en Ontario. Mm-hmm. Je pense que mon intégration se passe très bien. Comme je le dis, il y a beaucoup de services qui sont là pour les francophones. C'est sûr qu'il faut se battre pour se faire sa place, mais... il y a beaucoup d'exemples de femmes, de réussite féminine, des femmes qui peuvent être des mentors. Donc, je peux donner l'exemple de cette jeune femme, Nathalie Vilcrin, qui est haïtienne, qui représente les femmes auprès de l'Association des francophones de l'Ontario et qui a été élue jeune leader de l'année par la CFO d'Ottawa. Je pense que là, c'est un bel exemple de réussite, d'où l'importance de s'appuyer sur le levier des réseaux féminins.
Oui.
Donc, je pense que c'est très important.
Vous faites un travail extraordinaire et mes félicitations encore une fois et mon bonjour à Faiza et tous les membres de votre conseil d'administration, Dienaba Démé, secrétaire trésorière du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Allez sur le site www.mofif.ca. pour tout savoir. Je vous souhaite un bon mois de ce qu'il nous reste du mois de l'histoire des Noirs et j'espère que vous interviendrez régulièrement pour nous donner des mises à jour de ce qui se passe de votre association. Un grand merci encore une fois et bon dimanche et bien merci. Le bonjour à tout le monde.
Merci à vous de nous avoir reçus. Merci.
Au revoir. Mélissa Laveau, encore une fois, madame, monsieur, Nart, artiste coup de cœur du mois.
Sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Et oui, qui sont ces radios poubelles? La semaine prochaine, nous accueillerons Aurélie La Cassine. Elle est professeure à l'université de Sudbury, Laurentienne. Et je vous rappelle qu'elle a publié récemment Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne. C'est un essai sur une prise de parole. C'est de la maison d'édition Prise de parole, justement. Et nous parlerons avec aussi une femme haïtienne, très très connue dans la région de Gatineau, d'Ottawa, sur la place des Noirs dans les médias francophones. Et bien sûr, le dévoilement d'une liste de radios, de médias poubelles, dimanche prochain à ne pas rater, de 11h à 13h.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 Toronto.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, des raids aériens lancés dans la soirée par l'armée israélienne à Gaza. Les frappes ont touché des bases du Hamas à l'est de la ville de Gaza sans faire de victimes. Ces raids ont été lancés après une explosion qui a blessé hier 4 soldats israéliens à la frontière avec le territoire palestinien. Moscou a réagi aux accusations d'ingérence dans la dernière campagne américaine. Le chef de la diplomatie russe les a rejetées, les qualifiant de baratins alors qu'il veut des faits. Sergueï Lavrov réagissait aux inculpations de 13 ressortissants et de 3 sociétés russes aux États-Unis. En Allemagne, le Parti social-démocrate a lancé sa campagne pour convaincre ses adhérents d'approuver un gouvernement avec Angela Merkel. Consultation auprès des quelques 464 000 adhérents du SPD. Le succès du oui est vital pour la chancelière sortie victorieuse mais affaiblie des élections de septembre dernier. Le vote doit débuter mardi prochain et ses résultats sont attendus vers le 4 mars. En Grande-Bretagne, nouveau changement à la tête du parti europhobe UKIP, parti en crise. Son chef Henry Bolton a été démis de ses fonctions par un vote des adhérents lors d'un congrès extraordinaire. Déjà confronté à des difficultés financières, UKIP doit changer de leader pour la 4e fois en moins de 2 ans. Le Kosovo a fêté les 10 ans de sa déclaration d'indépendance, une souveraineté que la Serbie refuse toujours de reconnaître. Avec le soutien de Moscou, Belgrade s'oppose avec succès à l'admission du Kosovo à l'ONU. Aux États-Unis, une rescapée de la fusillade dans un lycée de Floride. 17 morts cette semaine, s'en est pris à Donald Trump. Honte à vous, a-t-elle lancé. C'était lors d'une manifestation contre les armes à Fort Lauderdale. La foule a dénoncé les liens supposés du président américain avec la NRA, principal lobby des armes à feu. En Éthiopie, l'état d'urgence décrété par le gouvernement restera en vigueur pendant 6 mois. Il interdit notamment les manifestations. L'état d'urgence intervient au lendemain de la démission du premier ministre et après 3 années de crise politique et de violence qui ont fait des centaines de morts en Éthiopie. En France, l'islamologue Tariq Ramadan, actuellement en détention provisoire pour viol, a dû être hospitalisé selon son comité de soutien. Tariq Ramadan souffre d'une sclérose en plaques. Il attend les résultats d'une expertise médicale en vue d'une éventuelle remise en liberté. Enfin, aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, à suivre cette nuit l'une des épreuves reines en ski alpin, le géant homme, avec en position de grand favori l'Autrichien Marcel Hirscher. L'un de ses principaux rivaux est le Français Alexis Pinturo. L'information revient dans une 20aine de minutes en compagnie.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
Qui est la Crazy Claudia? Une vraie pile électrique du Jamel Comedy Club qui débarque enfin sur scène, ici à Toronto.
Ah, je suis trop contente d'être là ce soir. Oh là là! Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir?
Oui!
Yes! Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle ce soir?
Oui!
Ah ouais, en même temps, je demande, hein, mais heureusement qu'il y avait des filles pour tenir la main pour arriver jusqu'ici, hein. N'est-ce pas, les filles, que les mecs, c'est des assistés jusque vous, hein?
Oui!
Le gars, il mange, faut encore que tu lui suis la bouche. Et les mecs de la nouvelle génération, là. Celui qui a dit non, exactement, ouais. Nouvelle génération, quand ils sortent avec une femme, ils recherchent leur mère à travers la relation. J'en ai connu des comme ça. Parce qu'il faut savoir un truc, les gars, c'est que nous, les femmes, quand nous sommes célibataires, ici, là, tout est ouvert. On met du miel. Et vous arrivez, on bloque. Donc, quand tu recherches ta mère comme ça, tu vas dire, viens faire un câlin à Tati Claudia. Oui, viens. Oui, viens t'éter, c'est sucré, viens. Le gars, il vient, je le bloque. Je dis, écoute-moi bien. La différence entre ta mère et moi, là, c'est que quand moi je dis tu rentres à 20h, tu rentres à 20h. C'est ça qu'il faut faire, les filles. Il faut les dresser, les mecs. C'est ça. C'est ça. Ah, yeah. Si tu veux faire où, viens là, viens devant. Les où du fond, ça ne m'intéresse pas. Viens. Mais je vois que ce soir, il y a des belles brochettes de mecs, là, quand même. Hein? Regarde-moi ça, là, très mignon. Ah, dommage, j'ai plus de téléphone, sinon j'aurais pris ton numéro. Ben oui, mon téléphone s'est cassé la semaine dernière. Je te jure, j'ai pleuré, parce que tu as peine de cœur, comme on dit, tu vois. Pleuré pour les larmes sont rentrées dans le téléphone. Alors je vais voir donc la compagnie de téléphone, je lui dis, excusez-moi, vous pouvez remplacer mon téléphone et tout. Ah non, les larmes ne rentrent pas dans la clause de garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on n'a même plus le droit de pleurer, quoi. Non, on aurait été aux États-Unis, là. Je vous assure, mais là-bas, ils savaient faire. Ils m'auraient remboursé mon téléphone, ils m'auraient offert un an d'abonnement et ils auraient appelé mon ex dans un restaurant avec des caméras pour qu'on se réconcilie. Vous voyez le truc? Non, ils savent tout faire là-bas, c'est flash, tu vois. Ils sont pas comme nous, on est timides, tu vois. Regardez, les athlètes américains, par exemple. Vous avez vu? 100 mètres, 200 mètres, départ de course. Les mecs, ils sont sûrs d'eux. On dit son nom au gars, il se déshabille, ta tête de chocolat. Il est tellement...
Eh oui, elle est née à Abidjan, Côte d'Ivoire. Claudia Tagbo a grandi à Alès, dans le sud de la France. Et elle a fait son petit bout de chemin, comme on dit. Elle a obtenu son bac, est montée à Paris afin d'y suivre des études en art du spectacle. Licence en poche, elle décide de s'investir dans le métier qu'elle a choisi. Comédienne, je l'adore. Crazy Claudia. Et j'espère qu'un jour on aura la chance de la voir ici. Je pense qu'elle est déjà passée à Montréal. Hein. Alors dans un instant, madame, monsieur, je vous annonce encore une fois cette urgente nouvelle de RFI, la mort du réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo. Et oui, et c'est une très très triste nouvelle à 69 ans seulement. Et elle a été récompensée dans les plus grands festivals. Elle a réalisé une quarantaine de films très très connus dans le monde du cinéma, madame, monsieur. C'est une grande perte pour le cinéma africain et pour le continent africain. Dans un instant, nous allons vous poser des questions, mais aussi poser des questions à une femme très engagée dans la communauté francophone, dans la communauté noire de Toronto, de l'Ontario. Et comme vous savez, ce dimanche, nous essayons à notre façon de rendre hommage aux femmes noires héroïnes de l'ombre. Quelles sont les difficultés pour la femme noire, immigrante et francophone, se faire une place dans la société canadienne, ontarienne et francophone aussi. Dans un instant, nous allons recevoir Olga Lambert. On l'a retrouvée grâce à nos antennes. Elle est... co-directrice de People of Motherland, monde de culture. Eh oui, bonjour, chère Olga, comment ça va?
Ça va très bien, Cadéric, toi-même.
Oui, ça va très bien. C'est Eric qui vous parle, hein?
Ah, oh, ça va, Eric, ça va bien?
Oui, ça va, ça va. Est-ce que vous avez déjà entendu Claudia?
Non, c'est la première fois que je suis emballée.
Et vous savez, c'est ça. Super. Il y a des talents comme ça dans la communauté noire. Et je pense que ça prend des médias. Des médias pour faire connaître ces voix, n'est-ce pas? Je pense que
Absolument.
La communication est un peu mauvaise. On vous entend à peine, malheureusement. Est-ce que vous êtes bien assis là, oui, quelque part?
Est-ce que c'est mieux?
Là, c'est mieux, oui, effectivement. Ouais, parce qu'il y a des gens de RFI, de partout à travers la planète qui nous écoutent. On veut absolument s'accrocher à votre... Peut-être il faut baisser la radio, hein, si vous nous écoutez sur la radio. Il faut baisser la radio.
Déjà, c'est complètement
baissé. Ouais. Voilà. Alors, oui, il y a des gens qui veulent s'accrocher à tout ce que vous allez nous partager. Alors, comment passez-vous ce mois de l'Histoire des Noirs, édition 2018?
Oh, ben là, je suis emballée parce que chaque semaine, j'essaie d'aller à une activité. Mmh. Et pour le moment, ça marche très bien.
Oui.
Alors, j'ai été à... un événement qui était organisé par Historica Africa. Je suis une oratrice publique de cet organisme depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. Quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ce que fait cet organisme, c'est que nous permet, nous, les immigrants, de raconter notre histoire, mais en même temps, ça permet de parler soit à des jeunes dans les écoles ou des nouveaux immigrants qui essaient de trouver leur place en se disant, ben, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Mmh. Alors, chaque année aussi, l'organisme organise un événement pour souligner le mois de l'histoire de Noir et invite la communauté à venir entendre des gens justement de la communauté, de leur histoire et qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'installer, réussir, inspirer les autres.
Vous savez
que... cette année, le thème, c'était les voix africaines.
Oui. Ça. Et vous savez que nous, moi je trouve ça triste qu'on célèbre, qu'on fasse rejaillir les talents, les voix de notre communauté, de la diaspora noire. Or, pourquoi le fait-on pas assez tout au long de l'année? Ça, c'est ma grande question.
Absolument, je suis absolument d'accord avec toi, parce qu'on dira, mais pourquoi est-ce qu'il faut seulement célébrer le mois de l'histoire des Noirs un mois? Pourquoi ça se passe pas toute l'année? C'est toujours la même question. Je suis certainement d'accord. Ça se fait, mais c'est juste que c'est pas assez publicisé ou il n'y a pas assez d'emphase. Mais il faut qu'on fasse plus parce que ça se fait. On fait un effort plus grand au mois de février, mais moi je dirais qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans la communauté à chaque mois.
Mais...
c'est que le message n'est pas assez véhiculé pour que les gens le sachent.
Oui, j'ai repris un article du journal Le Devoir il y a quelques mois de cela qui parlait de cet incident qui s'est passé dans les années 60 à l'Université Concordia. Et beaucoup de gens m'envoient des textos pour me dire que je pense qu'il faut baisser la radio hein, parce que j'entends la réverbération là, de ma voix.
D'accord, oui. J'ai éteint complètement.
Oui. Alors, beaucoup de gens me disent « Ah, M. Kader, on ne savait pas qu'il y avait un problème pareil dans les années 60. Ça fait pas longtemps hein, quand même au Québec. » Et je dois lire ici un extrait parce que j'ai fait une recherche et je vois que selon un article, un jugement de la Cour d'appel du Québec dans le procès Lowe's Montreal Theatres Limited contre Reynolds en 1919, toujours hein, au Canada, la direction du théâtre a le droit d'imposer des restrictions et d'édicter des règlements quant aux places à attribuer aux spectateurs pendant une représentation. En conséquence, tout homme de couleur en possession d'un billet et qui voudra occuper un siège qu'il s'est défendu aux gens de couleur par la direction ne pourra protester si on lui interdit l'entrée du théâtre. Ça se passait en 1919, ici, au Canada. C'était à Montréal.
Waouh, surprenant. Vous m'apprenez quelque chose de nouveau, là. Je n'ai jamais entendu cette histoire, mais... Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit partager ces informations et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est l'éducation. C'est vraiment... moi, je dis toujours que si nous ne faisons pas ce que nous faisons maintenant, comme toi, partageant les formations, et que chacun le fasse à sa façon, nous n'allons jamais avancer.
Mais
l'éducation, c'est très important.
Parce que souvent, les gens, y compris les gens dans notre communauté, hein, qui disent « Ah, pourquoi parler des Noirs, de la musique noire, de la culture noire à chaque fois ?» Voilà, le film Black Panther, là, qui fait un tabac en ce moment partout à travers le monde. C'est incroyable.
Oui.
Ça
prend... Je ne l'ai pas encore vu, mais oui. Apparemment, oui. Oui. Mon fils a été le voir, puis il m'a dit « Maman, tu devais le voir, ça va t'intéresser.
Ouais. »
Alors, je me promets dans les prochains jours de le faire.
Ouais. Alors, vous savez, moi, je suis un anti-ghetto, hein, parce qu'il y a une école ici réservée uniquement pour les Afro-Canadiens, hein, on le sait, à Toronto.
Oui, oui, je suis au courant.
Ouais. Est-ce que, et moi, la question, quand cette école a ouvert ses portes, je me suis dit, mais où allons-nous? On est au Canada, on est censé d'être... égal à égal avec tout le monde et avoir accès à l'éducation, à l'emploi, services de santé, pareil comme tout le monde. Est-ce qu'il faudrait, mon cher Olga, ma chère Olga, avoir un hôpital uniquement par des Noirs pour des Noirs? Est-ce qu'il faudrait avoir des médias uniquement par des Noirs pour des Noirs? Est-ce qu'il faudrait avoir seulement services de santé? Non, mais où?
Où allons-nous?
Oui.
Quand on commence à faire une autre ségrégation, je vais dire moderne, si je peux me permettre le terme. Est-ce que vous savez que quand cette école a ouvert, les gens ont eu beaucoup de, et toujours, des points de vue mitigés à ce niveau-là.
Mm-hmm.
Le message que veut donner le gouvernement en acceptant d'ouvrir cette école, et pourquoi il y avait cette école, ça a toujours été mitigé. Mais est-ce que ça porte fruit? Est-ce que ça donne l'objectif? On ne sait même pas. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. Mais je vais aller au sens de là, ce que vous dites. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une ségrégation pour pouvoir avancer? Est-ce que c'est ce qu'on veut donner comme message à nos enfants? Vous parlez de l'article de 1919. Je vais vous donner quelque chose que j'ai entendu pas plus tard que vendredi. J'étais allé à une activité du mois de l'histoire des Noirs et nous étions en ligne pour prendre une photo parce qu'il y avait le choix par un commanditaire de l'événement de faire une photo avec des cotations de personnes célèbres parlant de Nelson Mandela, de Barack Obama, etc. Et il y a un jeune, il y avait des jeunes devant moi, et un qui dit « Je ne comprends pas pourquoi ça c'est si important de faire ça » parce que le titre c'était en anglais « Black Voice ». Alors, je ne vois pas pourquoi c'est important d'avoir des Black Voice. Et le jeune a dit ça. Alors, moi, je ne les connaissais pas, puis j'ai dit, je suis surprise de t'entendre dire quelque chose comme ça. Je suis très surprise. J'ai dit, est-ce que quand tu es à l'école, quand tu as ton travail, à la maison, quand tu as une discussion avec quelqu'un, est-ce que tu as le droit d'avoir une voix? Puis il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu veux que ton opinion passe? Il me dit oui. J'ai dit, alors pourquoi est-ce qu'il y a un groupe qui peut avoir des voix, puis les autres ne peuvent pas avoir des voix? Il dit, ah oui. Et les autres me regardent et me disent, madame, je suis très contente que vous l'éduquez pour nous, parce que nous l'essayons, puis il ne comprend pas. Et puis c'est des jeunes de notre communauté. Mmh. Alors, il faut qu'on fasse des efforts pour qu'on partage ces informations, parce que ces jeunes, ou ils ne comprennent pas, ou ils sont perdus, ou bien parce qu'ils ne savent pas.
Mais
alors,
aussi,
nous avons chacun un devoir.
Je rappelle aux gens que je suis avec la chère Olga Lambert, qui est co-directrice de People of Motherland, un monde de culture qui fait des projets très, très intéressants et captivants, surtout avec les jeunes de la communauté des diasporas noires de la région de Toronto. Et je veux revenir sur ce qui s'est passé en Floride. Ils ont découvert dans les médias sociaux que ce jeune avait justement des propos très, très racistes. Et ici aussi, au Canada, on a vu un jeune qui est allé dans une mosquée l'année dernière pour tuer des musulmans.
Oui.
Et il y a ces gens qui pilulent nos médias dans certaines provinces, pour ne pas dire au Québec, qui, des animateurs qu'on a retracés, parce que la semaine prochaine, on va faire justement une émission pour dévoiler la liste de ces émissions. Et c'est ça qui pullule la tête, la mémoire de nos jeunes. Et des auditoires en général.
Et moi, je dis, Eric, que ces gens vont piller, mais nous, les autres, nous devons faire un devoir, non pas d'aller les contredire, mais de donner l'amour, l'éducation, la passion, la fierté de sa culture à ces jeunes. nous n'allons pas répondre à la haine par la haine. Mmh. Nous allons répondre à la haine par l'amour, par l'éducation, par le partage. Parce que je pense que si ces jeunes savaient mieux, étaient mieux outillés, ils vont savoir comment faire la part des choses. Et chacun, nous avons le droit de le faire à partir de notre maison, de nos enfants, de nos jeunes que nous entourons. N'essayons pas de dire « Ah, ce que l'autre dit est mauvais ou contre » parce que nous ne faisons que mettre l'huile dans le feu. Moi, je vais répondre en disant « Voilà, qu'est-ce que tu aimes de toi? Qu'est-ce que tu aimes de ta culture? Qu'est-ce que tu connais ?» Alors, je vais leur montrer d'autres côtés qui vont tranquillement les amener à comprendre et à prendre leur place. Et on commence avec nos propres enfants. Un jeune à la fois.
Mais je pense qu'il y a aussi un engagement collectif au niveau du système, par exemple le CRTC. Beaucoup de gens là trouvent que cette compagnie canadienne qui régularise les propos, les émissions, les politiques dans nos médias doivent aussi jouer un rôle pour, quand ils voient, ils entendent des propos, ils reçoivent des plaintes, qu'ils aillent dans ces radios, qu'ils demandent à ces patrons que ces animateurs doivent être virés ou encore réprimandés, mais on n'a pas le droit de diviser une société, surtout comme le Canada. Nous sommes le socle même de notre système, c'est le multiculturalisme, c'est apprécier la diversité culturelle.
Et tu sais ce qu'on nous répondra, parce que j'ai déjà eu des situations comme ça où j'ai à me plaindre pour un social media en ligne. J'ai eu la réponse, la liberté d'expression. Alors, jusqu'où va la liberté d'expression? Où est-ce qu'on fait un trait entre la liberté d'expression et promouvoir la haine contre un groupe, d'un autre groupe à un autre? Parce que je me suis déjà fait dire que c'est la liberté d'expression. Il faut que chacun est libre de s'exprimer. Alors, il faut, comme tu dis, une action collective. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'on apprend l'action collective quand directement cette entité en haut te dit c'est une liberté d'expression, que j'ai le droit de laisser les gens s'exprimer sur mes médias.
Mais, alors, cette semaine, c'était intéressant de ce qui s'est passé à Gatineau, lundi soir, je pense. C'est notre premier ministre, M. Trudeau, avant son départ pour l'Inde. Il a avoué devant les médias et les invités qui étaient là qu'il faut en faire plus pour défendre les droits des personnes de la communauté noire au Canada, parce qu'il y a encore beaucoup de racisme systémique partout au Canada. Est-ce que, alors, il demande des études, des rapports, des données. Mais Olga, on en a fait tout ça depuis 20 ans, 30 ans, n'est-ce pas?
Oui, et je pense pas que c'est les études, les données qui vont changer quelque chose quand on n'a pas des actions directes. Tu viens de parler de ces radios, de ces animateurs. On n'a pas besoin d'aller encore faire une étude qui va encore prendre 30 ans pour qu'on agisse. Il me semble aussi que c'est dernièrement que, justement, le gouvernement fédéral a accepté de reconnaître ce que les Nations Unies ont déjà annoncé plusieurs fois, la décennie des personnes de race noire, qui n'a jamais été concrètement validée. Et c'est maintenant qu'on veut valider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre pour que le message passe que concrètement, il y a des actions? Nous pouvons faire des actions, tu en fais tout le temps, j'en fais, d'autres en font. On a beaucoup de gens qui en font individuellement, mais collectivement, jusqu'à ce que ça remonte au fédéral, qu'est-ce qui se fait?
Alors, à Toronto, il y a plusieurs rapports sur... Je ne sais pas si vous étiez là quand il y a eu le rapport Lewis.
Non, je n'ai pas...
Ah oui, c'est dans les années 90, il y avait des émeutes au centre-ville de Toronto. Vous savez, c'est pour cette raison que je dis aux gens, il faut toujours aller dans l'histoire. Hein? Et c'est drôle, j'entends ma voix qui reverbe.
Et pourtant, je suis seul, je suis dans un endroit clos. Et la radio n'est pas éteinte.
Est-ce que vous êtes sur un speaker, comme on appelle, peut-être?
Non, je vais voir. Non, je suis directement sur mon cellulaire,
ouais.
Pas du tout.
Ok. Oui. C'est bizarre. Peut-être il y a quelqu'un qui nous espionne. Donc, je dis aux gens, il faut toujours retourner dans l'histoire parce que si les gouvernements, les municipalités, comme à Toronto, il y a aussi des recommandations émises l'année dernière pour combattre le racisme, surtout envers les jeunes de la ville de Toronto, c'est qu'il y a eu des événements. c'est qu'il y a eu des protestations, c'est qu'il y a des parents, il y a des groupes, des associations qui ont monté au créneau pour dénoncer certaines choses. Et heureusement, ici, dans cette société toujours encore démocratique, on a ce droit de parole pour faire avancer les causes de tout le monde, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Et donc, il y a un rapport, un nouveau rapport qui est sorti pas tellement longtemps, qui dit que près de 80% des hommes noirs de 25 à 44 ans vivant dans le Grand Toronto affirment avoir été interpellés en public par un policier. Plus de 50% de toutes les personnes noires interrogées disent avoir été interpellées en public au moins une fois. Ce rapport a été publié au lendemain des accusations portées contre un policier. Celui-ci aurait abattu un noir à l'aide d'une barre de fer. Il s'agit d'une étude intitulée « The Black Experience Project » qui porte sur le fait d'être noir à Toronto et qui s'étend sur plus de 7 ans.
Et je suis au courant. Oui, je m'en rappelle parce qu'ils m'ont même approché pour justement notre ami poser des questions ou avoir la permission de passer le message dans certains de nos événements. Donc oui, je m'en rappelle maintenant.
Maintenant, au niveau fédéral, ils ont sorti aussi une nouvelle étude et un plan d'action pour combattre le racisme en Ontario. Et certains pays étrangers ont même repris certains extraits de cette étude en disant que « Oh, c'est tellement beau que peut-être cela pourrait être utile dans d'autres pays ». Mais j'ai fait un petit peu une enquête. Il y a eu très, très peu d'intervenants francophones dans les consultations menées par la province de l'Ontario il y a 2 ans.
Tu sais, Eric, moi, je dis toujours que nous, les francophones, et si on ajoute de la communauté noire, nous avons double ou triple désavantages. Mm-hmm. Moi, je suis une femme noire, je suis une francophone. Et qu'est-ce que ça donne? Déficit au niveau de la femme, déficit au niveau africain et déficit au niveau francophone. Alors, je me trouve reléguée 3e, 4e rang. C'est vraiment, comme tu dis, il faut toujours se battre pour quelque chose, se battre pour être une femme, se battre pour prendre sa place comme personne de la communauté noire, se battre pour prendre sa place comme une personne francophone. Et ça ne devrait pas l'être. Mais... Et encore, cette étude le démontre. Où sont les francophones pendant qu'on faisait cette étude? Le français est la 2e langue officielle du Canada. Alors, on ne devrait même pas se poser la question. C'est équitable.
Oui. J'ai aussi un autre rapport devant moi. C'est été écrit il y a plusieurs années de cela par le professeur James Walker, qui est né en Ontario, qui a passé son enfance ici, dans la province d'Ontario, pas très loin de Toronto. Et puis, il a voyagé en Inde et il a travaillé pendant de nombreuses années à la faculté d'histoire de l'université de Waterloo, et où il est l'actuel directeur en ce moment. Et il enseigne l'histoire des Noirs et des relations interraciales au Canada, ainsi que l'histoire des pays en voie de développement. Et elle a publié plusieurs ouvrages. J'adore ça, des études très approfondies, avec des détails, avec de la bonne documentation, parce que moi, je pense que c'est ça qui est la clé. C'est pas de dire n'importe quoi et de rapporter n'importe quoi des médias poubelles, mais il faut toujours aller à la source des documents qui sont véridiques, qui ont été bien travaillés, n'est-ce pas? Et il publie aussi un petit poème que je vais vous lire parce que je trouve que ça cadre très bien avec les gens qui sont... C'est dur pour les réfugiés, pour les... Des fois, des nouveaux immigrants qui arrivent dans un pays d'accueil quand ils sont confrontés à des barrières systémiques dans leur vie. Alors, il dit... Ça, c'est un poème sur la discrimination raciale contre les Noirs au Canada. Je lis ce qu'il a écrit. « Ô noble étoile, astre des nordiques nuits, flambeau sacré qui brille sans répit, baigne de ta lumière un pauvre être démuni, un noir réfugié. Sois pour lui un guide bienveillant. Conduis-le vers un pays accueillant, vers de blanches contrées. Il te suivra vaillamment, ô astre de la liberté. Indique-lui un pays d'affranchis. À lui le laboureur, naguère asservi,
que nul ne profane le foyer et la vie des hommes jouissant de liberté. Ça, c'est l'extrait du poème « The Fugitive's Address to the North Star » d'Alexander MacArthur, paru dans « The Voice of the Fugitive » en 1852.
Wow. Ben, Eric, moi, je dois vraiment commander votre radio, spécialement à toi, de nous éclairer chaque semaine sur les sujets du jour, mais spécialement pendant ce mois où nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, de nous ramener, c'est un peu en arrière, comme tu dis, dans l'histoire, parce que nous avons, l'histoire ne change pas. Alors, l'histoire sera là pour témoigner de ce qui s'est passé et aussi nous permettre d'avancer, si on peut l'utiliser dans le bon sens. Alors, merci beaucoup, parce que moi-même, en t'écoutant chaque semaine, j'apprends toujours, et ça encore aujourd'hui, c'est une autre éducation, et c'est merci pour le message, et puis l'offre du temps d'antenne que tu m'offres aujourd'hui, mais surtout pour ce que vous faites à CIUT.
Alors, moi, je vais terminer l'émission plus tard avec un grand comédien, avec des proverbes. C'est ça qui nous fait vivre, n'est-ce pas, des proverbes africains. Si tu ne sais pas où tu vas, alors retourne d'où tu viens. Ou encore, même la poule noire pond des œufs blancs. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de l'histoire des Noirs et un grand merci pour tout le travail que vous faites. Vous nous faites honneur, hein, la communauté francophone, la diaspora noire de l'Ontario. Merci, merci pour tout et j'espère qu'on va garder ce partenariat, qu'on va dialoguer, qu'on va échanger, partager les richesses des diasporas noires tout au long de l'année.
Absolument, absolument. Et continue encore. Bravo encore. Merci.
Au revoir. The war is coming. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives. You can bring a bullet, bring a sword, bring a war, but you can't bring the truth to me. The world's gonna start over. This is my time. This ends today. Looking at your false confidence and calculated promises all in your conversation. Black Panther, rated PG-13. Get tickets now. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, l'animateur polémiste du Québec, André Arthur, a été congédié de la radio BLVD à Québec. Monsieur Arthur avait tenu des propos homophobes quelques mois passés, qualifiant la rue Saint-Jean à Québec de boulevard Sida, au cœur du quartier gay. Qui sont ces radios poubelles? Qui sont ces médias poubelles? Dimanche prochain, le 25 février, de 11h à 13h, soyez des nôtres pour le dévoilement d'une liste de radios, de médias, d'émissions qui prônent le racisme, le sexisme et l'homophobie dans le monde francophone. Si vous désirez partager votre expérience, si vous souhaitez participer à l'émission, envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm.
Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Toi, Andia, anda, anda. Toi, anda, anda. Andata. Et toi, Andi, Andi. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Katurambia wa hanjun no ra rumodu godoya boturo to aba o mairu no rumodu ha. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Et sinon, quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Tawolwani goto sali nanan goma sirwa nanan monde goto ananani mo afama ko wadi kam ko sali no nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Toi, Fintini, ma fagira, Pemaskala, oh, nous, Kongala, Noda, Hite, Koda, Noda. Si on te réveille le matin avec une claque, pense-y un peu à ce que tu faisais avant de t'endormir. Tawan bondi de didi de ore hei tawadi de ore a bondo tawadi de didi me take ginnawol me gartire ba bon bon me mure. Ne sois jamais bon deux fois. Sois bon une seule fois et c'est largement suffisant. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et on te suce.
Cherche sans a priori, montre pourtant qu'à l'instar des autres races, les Noirs ont participé à l'aventure de l'esprit humain. Ils sont des savants, des inventeurs, mais nulle part ils ne figurent dans le livre mondial de l'invention recensant ceux qui ont permis les progrès de l'humanité. L'inventivité des Noirs aux Amériques, par exemple, ne s'est jamais démentie à tel point qu'en 1858, un avocat général, Jeremiah Black, fera passer une loi contre le dépôt de brevets d'invention par les esclaves, vu qu'un brevet américain était un contrat entre le gouvernement des États-Unis et l'inventeur. Cela donne donc à penser qu'un certain nombre d'inventions faites par des Africains américains, communément appelés Afro-Américains, étaient souvent reconnues à leur maître esclavagiste. De plus, des instructions secrètes avaient été données en haut lieu pour qu'aucune banque ne finance un inventeur noir. Seules les sociétés privées blanches et les citoyens blancs avaient ainsi accès à ces crédits qui leur permettaient de racheter les brevets des Noirs et de se lancer dans leurs exploitations commerciales. Aux tables d'excellence, on a toujours tendance à ranger les Noirs dans la catégorie des meilleurs sportifs, ce qui n'est pas mauvais en soi. On est fier du roi Pelé, de Mohamed Ali et de Michael Jordan, entre autres. Cependant, les Noirs excellent également en sciences et en technologie. Ils ont fait beaucoup d'inventions demeurées inconnues au grand public, à l'instar de Granville T. Woods, l'inventeur de l'appareil de transmission de messages par voie électrique, le docteur Benjamin Carson, qui réalise une première mondiale en réussissant une opération permettant de séparer deux jumeaux siamois allemands, ou encore Otis Boykin, l'inventeur du fameux pacemaker, le régulateur pour stimulateur cardiaque. La rapacité, la cupidité du système capitaliste jointe au désir effréné de certaines nations d'assurer la suprématie de la race blanche font jeter aux calanques les noms des inventeurs noirs, même lorsqu'on leur reconnaît un certain droit d'invention. Le fait d'avoir changé leur patronyme du fait de l'esclavage contribue également à donner l'impression aux jeunes noirs que leurs ancêtres n'ont rien inventé. Et pourtant, comme le disait Martin Luther King Jr., quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié de toutes les choses et de tous les appareils dont vous vous êtes servi avant de quitter votre domicile a été inventée par des Noirs.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille,
vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des Alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto.
Et oui, troisième édition de notre émission, le mois de l'histoire des Noirs. Notre histoire s'écrit chaque jour, c'est le thème de cette année. Mettez vos connaissances de l'histoire des Noirs à l'épreuve. Allez, faites vite, vous avez encore quelques minutes. Qui est Marie-Joseph Angélique? Marie-Joseph Angélique, qui est-elle? Il faut répondre chaque dimanche à chaque question. Et si vous répondez correctement les quatre dimanches, eh ben, vous courez la chance de gagner un grand prix. On va faire un tirage au sort à la fin du mois. Et oui, propos d'une Albertaine, Madame Ruth Jones, recueillie par Velma Carter et Wanda Leffler, Akili, dans The Window of Our Memories. Nous habitions Kempsey dans notre enfance et je me souviendrai toujours que là-bas, c'était la loi Jim Crow qui régissait l'éducation. Lorsque nous étions très jeunes, on a ouvert l'école. Mais parce que nous étions des Noirs, mes sœurs et frères aînés n'ont pu y aller. Un jour, ma mère a amené une de mes sœurs à l'école pour voir ce qui se passerait. Le professeur n'a même pas voulu lui ouvrir la porte et lui ont tout simplement fermé l'école. C'était publié en 1981. Incroyable. Hommage aux femmes noires héroïnes de l'ombre. Quelles sont les difficultés pour la femme noire immigrante et francophone à se faire une place dans la société canadienne ou ontarienne? Nous remercions beaucoup le Journal Express de Toronto pour le partenariat, le MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, et People of Motherland, un monde de culture. Dans un instant, nous allons accueillir notre dernier invité de l'émission. C'est Mui Guirwa de Mithilde, qui est consultante en création et gestion des petites et moyennes entreprises. Eh oui, Mui Guirwa de Mithilde, bonjour. Et comment avez-vous démarré le mois de l'histoire des Noirs? Parce que ça fait pas très longtemps que vous êtes au Canada. Et parlez-nous un petit peu de votre expérience cette année dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
Ici au Canada?
Oui, oui, oui.
Ou ailleurs?
À Toronto.
Toronto? Moi, je dois vous dire d'abord que, oui, ça ne fait pas longtemps que je suis au Canada, à Toronto. Mais de toute façon, je remarquais qu'il y a une certaine lacune. Il y a des lacunes, il y a de discrimination, et il y a de, même de non-reconnaissance de nos propres valeurs, nous les Noirs. Alors, pour le mois de Noir, j'ai apprécié, il y a des activités qui ont été faites, et j'ai beaucoup apprécié. Je commence à voir que quand même, il y a une prise de conscience, il y a un réveil qui s'installe. Et je vois aussi qu'à Toronto, ça commence à changer, surtout pour nous, les francophones. On commence à nous comprendre parce qu'on commence aussi à nous imposer, à faire comprendre aux gens que ne pas être bilingue n'est pas une faute, mais que c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors, le mois des Noirs, ça m'a plu d'abord. Le fait même qu'il y a ce mois-là, c'est vraiment important. Ça marque que il y a une certaine importance qui est attribuée aux Noirs. C'est déjà ça.
Est-ce que vous avez une femme ou homme modèle de la communauté noire à nous proposer, que ce soit en Afrique, de votre enfance, de votre adolescence, ou dans vos études, et depuis que vous êtes à Toronto, est-ce qu'il y a des personnalités ou des personnes de la communauté noire qui vous a marqué?
Oui, vraiment. D'abord, je vais d'abord commencer par mon pays. Par exemple, dans le domaine des droits et des libertés, il y a une dame, une récemment, qui s'appelle Bernadette Bahumuhari, qui a milité pour l'indépendance du Burundi, qui a été à côté du prince Louis Rwabasore, qui est le roi du Burundi. C'était parmi peut-être 5 ou 4 femmes seulement qui étaient dans le mouvement des femmes. Et je la suis toujours avec son témoignage, et ça me donne courage, ça montre que vraiment les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Et dans le domaine socio-économique, je noterai quatre dames, qui est Liberata Kibulago, Yakadege et Doris Zabampema, qui ont vraiment milité pour que la Banque de la République du Burundi, les femmes puissent avoir un logement à location-vente comme au même titre que les hommes. Il y en a parmi ces femmes qui ont été licenciées, mais quand même, le message est passé maintenant à les femmes de la BRD, la Banque de la République du Burundi, qui travaillent là-bas, ont les mêmes droits que les hommes. Dans le domaine humanitaire, je noterai Maguib Barankite, qui pendant la guerre au Burundi, elle a collecté les orphelins de la guerre, toutes ethnies confondues. Elle a créé la maison Shalom. Alors, elle a créé même un hôpital. C'est vraiment une femme à féliciter. Il y a dans le domaine de la santé, Madame Gapia Jeanne, qui est la première femme qui a pris la parole dans une église, qui a dit qu'elle a le sida, le VIH-sida, alors que c'est vraiment le VIH-sida, dire que vous aviez le VIH-sida, vous étiez objet d'une discrimination dans la communauté. Elle a pris le courage, elle a dit dans l'église, et maintenant elle a créé une association des porteurs de VIH, et qui s'appelle ANSS, et maintenant elle travaille dans la ONU-SIDA. Elle plaide pour les femmes du VIH. Ça, c'est pour le Burundi. J'ai noté Agatha Uwilingiyimana, qui était Premier ministre au temps de Habyarimana, qui a dit non au génocide et sa famille a été décimée. Il y a à Burkina Faso, il y a la femme de Thomas Sankara, c'est Thomas Sankara, qui a plaidé pour la justice pour son mari, mais aussi ce qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'elle a dit à ses enfants de ne pas se venger. Elle a bien éduqué ses enfants à la non-vengeance. Ouais, et j'arrive au Canada, il y a Madame Léonie, qui est directrice générale de la passerelle AID, où même moi, c'est là où j'ai été accueillie dans la plateforme Affaires, l'intégration, comment connaître le Canada, les valeurs culturelles du Canada. Vraiment, c'est une organisation très sérieuse. Et maintenant, elle commence à avoir des agences au Canada, mais à Paris maintenant. Donc, ces femmes m'ont marqué, elles me donnent courage et me montrent que la femme est capable. Merci.
Et je rappelle aux gens que, et aussi peut-être pour vous, parce que vous êtes, on l'a déjà dit ici, une réfugiée au Canada, vous êtes de Burundi, vous reprenez goût à la vie et nous sommes très heureux que vous soyez là. Le Canada est encore, jusqu'à maintenant, une terre d'accueil et j'espère que ce sera comme ça pour toujours. Mais je rappelle aux gens et à vous que la population noire du Canada s'accroît plus rapidement que le reste de la population et est sensiblement plus jeune, selon un nouveau profil paru dans la publication trimestrielle de Statistique Canada, Tendance sociale canadienne. Et il y a quelques années de cela, 2001, je pense, les Noirs formaient le troisième groupe minoritaire visible en importance au Canada après les Chinois et les Sud-Asiatiques. Et selon ce même recensement, on a dénombré 662 000 Noirs environ. Ceci représente un peu plus de 2% de la population totale du Canada et 17% de la population minoritaire visible. Et je remarque aussi que les enfants de moins de 15 ans représentaient près de 30% de la population noire, comparativement à une proportion de seuls 19% pour l'ensemble de la population. Et plus de 17% des Noirs avaient entre 15 et 24 ans, contre seulement 13% pour la population totale. Et les enfants noirs sont plus susceptibles de vivre dans des familles monoparentales. Et là, ici, je vais vous poser une question que j'ai posée à une de mes invitées au tout début de l'émission. Vous êtes plus à l'aise dans le monde francophone, à parler le français. Pourquoi avez-vous choisi l'Ontario au lieu le Québec?
L'Ontario.
Oui, pourquoi avez-vous choisi de venir en Ontario au lieu d'aller au Québec?
Ah, ok. D'abord, Toronto, j'ai une fille qui est à Toronto, qui a fait Toronto depuis qu'elle a 16 ans. Elle a étudié au Canada. Elle a même fait l'Université de Toronto. Et c'est elle qui m'a accueillie. Deuxièmement, moi, je voulais une ville bilingue parce que j'ai envie de parler aussi le français, comme le français, oui, mais aussi parler l'anglais parce que l'anglais, ça devient vraiment une langue très importante, surtout dans les affaires. Je suis une femme d'affaires, alors ça me permettrait de faire mes affaires à l'aise. Et partout le monde, avec, et puis en même temps, je suis chercheur. Alors, c'est vraiment facile pour moi d'être bilingue. C'est pour ça que j'ai choisi Toronto.
Mais Toronto, malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, n'est pas une ville bilingue. D'ailleurs, ils se battent au niveau de la ville de Toronto pour avoir des services en français, avoir un comité de francophones. Alors, ce n'est pas gagné encore, mais quand même, le français a un statut. Dans les zones désignées, il y a plus de 25, je pense, en Ontario, où les francophones peuvent avoir accès à certains services dispensés par le gouvernement de l'Ontario, mais on le sait très bien que ce n'est pas toujours égal à égal à l'anglais. Enfin, peut-être jour, ça deviendrait une ville bilingue ou une province bilingue, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Oui, je sais. Maintenant, ce n'est pas le cas, c'est ça le problème. C'est ça le problème des francophones.
Oui.
Ce n'est pas le cas, mais c'est une ville où on parle anglais. Donc, pour apprendre une langue, il faut aller là où on parle la langue.
Oui. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. On clôture cette émission. Aujourd'hui, c'est la troisième édition de notre émission, le mois de l'histoire des Noirs. Et j'espère que vous serez des nôtres une prochaine fois. La semaine prochaine, on va avoir une émission époustouflante. Et oui, il ne faut pas paniquer, madame, monsieur. On va dénoncer les médias, les radios, les émissions poubelle. Et oui, il y a toute une liste d'émissions et de radios dans la communauté francophone, dans le monde, qui malheureusement fait la promotion du racisme, de l'homophobie, du sexisme. Et nous allons dénoncer tout ça. C'est dans le cadre d'un événement qui s'est déroulé dans une radio au Québec récemment. Et j'espère que vous serez à l'écoute et vous demanderez à tous vos amis d'envoyer des messages pour partager leur expérience. Merci encore une fois et bien le bonjour à vous et bon courage dans vos démarches. Moui Girwa Domitil, madame, monsieur, consultante en création et gestion des petites et moyennes entreprises. Elle est aussi chercheure en phytonature, nutrithérapie. À très bientôt. Au revoir.
Merci. Bonne journée.
Merci. Alors, voilà, madame, monsieur, nous allons faire languir les gens. J'aimerais tellement vous présenter Marie-Joseph Angélique, mais ce sera fait pour la semaine prochaine. Je remercie beaucoup DJ Devera, tous mes invités, le Mofif, Diana Ba, Démé, Olga Lambert, Moui Giawa, Demi-Tilde, RFI Musique. Dimanche prochain, madame, monsieur, à ne pas rater une émission avec des invités, des chercheurs, des écrivains des artistes. Et si cela vous intéresse, vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Encore une fois, un grand merci à tous ceux et celles qui nous envoient des messages de soutien tout au long du mois. Ça a été vraiment très touchant. Et continue. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir.
Parlons. Yeah. sur le micro. J'ai de la misère à ne pas être vénère sur cette terre. Pour l'homme vivre c'est l'enfer. Grâce à Lucifer on vit dans la galère. Donc comment faire dans cette vie pour calmer nos nerfs? Mes chers, je vous le dis, la vie coûte cher. Pour le bien de sa chair il faut être riche comme Cher. Ça m'énerve de voir comment on perd nos pères. Donc j'espère que la paix un jour on la repère. Prière, mon père, montre-moi la lumière car je veux voir clair. Pour me guider mes partenaires, mes soeurs, mon frère, ma mère. Aujourd'hui comme hier, pour eux je care, je les aime grand comme la mer. Haïtien pour les miens, je refuse de me taire. Pour mes confrères, yeah, j'ai mon poing dans les airs. Trop de guerre, faut qu'on cherche notre univers. Gros, je suis un poète qui refuse qu'on reste par terre. Primaire, secondaire, mes pensées fuient de travers. J'y suis pas, sert pour revenir en grand caractère. Sur les commentaires négatifs, j'en ai rien à faire. Dans mon horaire, y'a pas que pour des hommes d'affaires. Je me dirige vers ce stock de verre en partageant quelques vers, envers une carrière. Donc le mouvement vers l'avant, jamais vers l'arrière. Comme il faut bâtir pour établir une vie sans frontières. Comme il faut bâtir pour établir une vie sans frontières. Comme il faut bâtir pour établir une vie sans frontières. Donc le mouvement vers l'avant, jamais vers l'arrière. Comme il faut bâtir pour établir une vie sans frontières.